Les tests utilisateurs à l'international. Les tests utilisateurs à l'international, à quoi ça sert? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de notre sujet du moment, mais tellement important, les tests utilisateurs à l'international. Alors certains d'entre vous me diront, mais pourquoi effectuer des tests utilisateurs à l'étranger? Tout le monde surfe de la même manière, qu'il soit français, chinois, indien ou américain. Alors si cela n'est pas tout à fait faux, il y a bel et bien une chose qui distingue notre navigation de celle des autres. Les utilisateurs appartiennent à des pays différents, des religions différentes, parlent différentes langues et ont différents modes de vie. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement ils n'ont pas la même culture. Et c'est cette culture propre à chacun qui fait qu'un utilisateur ne perçoit pas de la même façon vos offres, vos produits et parfois même d'ailleurs votre marque. Une personne venant de Chine n'a pas forcément les mêmes besoins et attentes qu'une personne vivant en France ou en Amérique. En clair, c'est notre culture qui influence notre comportement et c'est pour cette raison qu'il est essentiel d'effectuer des tests utilisateurs à l'étranger. Pour vérifier qu'une interface ne s'écarte pas trop des conventions de tel ou tel pays. Et si je vous parle de cela, c'est bien évidemment parce que aujourd'hui, sur de nombreux sites web, les utilisateurs étrangers se heurtent à divers problèmes d'utilisabilité. Alors, si vous voulez apporter une meilleure expérience de navigation à l'ensemble de vos utilisateurs, je vous conseille de vous intéresser de plus près à ces différents problèmes et d'adapter votre interface à la diversité de ses utilisateurs. Il serait dommage d'en perdre une partie, n'est-ce pas, et de faire baisser votre taux de conversion. Comme dit précédemment, aujourd'hui, certains utilisateurs venant de différents pays se heurtent à divers problèmes d'utilisabilité. En effet, une majorité de sites web sur lesquels nous nous rendons parfois quotidiennement ne sont pas adaptés aux différentes cultures des utilisateurs. Pourquoi, d'après vous? Eh bien, sans doute parce qu'il y a une connaissance très faible du rôle de la culture dans les interfaces utilisateurs et surtout dans la conception d'interfaces. Je vous propose alors de jeter un œil aux différents problèmes qu'un utilisateur étranger peut rencontrer lors de sa navigation sur un site qui n'est pas suffisamment adapté à sa culture. Ces quelques exemples, issus d'un article très intéressant du groupe Norman Nielsen et de notre propre expérience, vont, je l'espère, vous incitez à vouloir prendre davantage en compte les attentes et besoins de tous vos utilisateurs, venant d'ici et d'ailleurs. L'intérêt d'un test utilisateur à l'international, que ce soit dans le pays ou à distance, est de pouvoir analyser le testeur dans son propre environnement, c'est-à-dire chez lui et non dans une salle de test. Et s'il n'est pas forcément nécessaire de déterminer tous les facteurs contextuels qui influencent son comportement, il est en revanche nécessaire de déterminer toutes les difficultés rencontrées. On peut par exemple parler de la limitation du haut débit. L'article très intéressant dont je vous parlais raconte l'exemple d'un utilisateur naviguant sur le site de Decathlon qui a contraint celui-ci à attendre plus de 20 secondes pour qu'une page se charge. La raison à cela? Une navigation complexe comprenant beaucoup d'images et d'interactions. Une version mobile du site web de Decathlon qui utilise beaucoup d'images et d'interactions. Peut-être que vous qui lisez cet article n'avez aucun problème de chargement en allant sur le site de Decathlon. Mais d'autres utilisateurs venant de différents pays peuvent y être confrontés. Il en est de même pour les problèmes de navigateurs. D'un pays à l'autre, tout le monde n'utilise pas le même navigateur et c'est pour ces raisons qu'il est important de prêter une attention toute particulière à ce genre de difficultés et d'adapter son interface après en avoir pris connaissance. La perception du produit. Comme je vous l'ai déjà dit dans un de mes précédents articles, l'esthétique joue un rôle très important dans la mesure où elle impacte la perception des utilisateurs de votre interface. Toutefois, lorsqu'on gère plusieurs sites en langues étrangères, il est important de savoir que la perception en matière de design n'est pas la même partout. Une étude réalisée par Katharina Reinecke et Christophe Gajos, intitulée « Quantifying Visual Preferences Around the World », prouve parfaitement ce fait. Ensemble, ils ont recueilli 2,4 millions d'évaluations subjectives sur l'esthétique des sites web auprès de plus de 39 000 participants du monde entier. Et devinez ce qu'ils ont découvert ? Les participants russes, par exemple, préfèrent les sites web au design léger, alors que les Mexicains et les Chiliens, eux, préfèrent les sites web au design plus complexe. Et ce n'est pas tout. L'étude révèle aussi que les Finlandais, les Russes, les Français et les Allemands aiment mieux les designs monochromes, quand d'autres, tels que les Malaisiens et les Chiliens, penchent plutôt vers les designs très colorés. En sachant cela, vous saurez donc vers quel type de design orienter votre interface si vous disposez de plusieurs sites en langue étrangère. Ou alors, la solution n'est-elle pas de trouver un juste milieu afin de satisfaire l'ensemble de vos utilisateurs ? La consommation de contenu. Lorsque vous concevez un site web, il est important de vous faire comprendre par tous vos utilisateurs, y compris ceux venant des quatre coins du monde. Si vous avez plusieurs publics issus de cultures différentes qui utilisent la même version linguistique de votre site, il est important de faire attention aux mots. Et oui, un même mot n'a pas forcément la même signification pour tout le monde. Tout comme les emojis d'ailleurs. Saviez-vous que notre bon vieux emoji ici présent, le simple symbole de sourire qui symbolise la joie, le bonheur, la bienveillance, est synonyme de mépris et de méfiance pour nos amis de Chine. La signification des emojis peut donc largement différer selon le contexte culturel. Alors méfiez-vous si vous souhaitez en glisser sur votre interface. Comment s'y prendre pour tester à l'étranger ? Alors ça y est, maintenant vous ne doutez plus de l'importance des tests utilisateurs à l'international ? J'en suis ravi, et je vous vois venir. Vous vous interrogez désormais sur la réalisation de ces tests. Comment les faire ? Comment recruter ? Où les faire ? Avec qui ? Quand ? Dans quelles conditions ? Etc. Pas de panique, on vous explique tout ça en détail. La première chose à savoir est qu'un test utilisateur à l'international n'est finalement pas si différent d'un test utilisateur en présentiel. Les 5 étapes de notre méthodologie sont toujours respectées et suivies à la lettre. Mais attention, bien évidemment, lors d'études à l'étranger, il existe quelques particularités. Et vous devez sûrement vous en douter, mais l'étape la plus complexe et la plus longue est celle du recrutement. Puisqu'il est toujours question de sélectionner un panel le plus représentatif possible de clients ou de prospects, ce n'est donc pas toujours chose facile. Une des premières raisons qui rend cette étape de recrutement parfois assez longue et complexe est bien évidemment la langue. Dans le cadre d'un test pour un pays étranger, il est impératif de travailler et de collaborer en duo, c'est-à-dire avec un ergonome français et ou anglais, ainsi qu'un ergonome natif du pays dans lequel se déroule le test. Cela oblige aussi parfois à faire appel à un traducteur, ce qui n'est pas de tout repos. La deuxième raison pour laquelle un recrutement à l'étranger peut s'avérer complexe est le fait d'être confronté à une cible très spécifique. Et oui, quand il s'agit d'un grand compte de la grande distribution ou du e-commerce, cela ne pose pas de problème, la cible étant tellement large. En revanche, si vous recherchez des profils particuliers, notamment dans le B2B, il ne se trouve pas toujours à tous les coins de rue. Le recrutement peut alors prendre plusieurs mois. Prenons un exemple. Pour Omnisil Solutions, une business unit du groupe Saint-Gobain et client de Wexperience, nous avons réalisé plusieurs tests utilisateurs dans le cadre de la refonte de leur site. Et comme le dit Damien Canac, leur directeur de business unit, dans mon dernier podcast, la cible d'Omnisil Solutions est une population d'ingénieurs très techniques dans des industries très particulières, à savoir l'industrie aéronautique. Recruter ce panel d'utilisateurs a donc été la principale difficulté de ce projet. L'étape de recrutement d'un test utilisateur à l'international peut donc prendre 2 semaines comme 2 mois, et cela dépend évidemment des besoins et des attentes, des types de profils et bien sûr de leur emplacement géographique. Alors après l'étape du recrutement, vous allez me dire, eh bien, comment ça se passe maintenant ? Comment se déroulent les tests ? Eh bien, sachez qu'il y a plusieurs manières de réaliser un test utilisateur à l'international, se rendre au pays, faire le test à distance ou, encore une fois, faire appel à un consultant local. Alors évidemment, vous savez déjà ce que je vais vous dire. La meilleure manière de faire est de se rendre au pays, sachant que l'objectif d'un test utilisateur est d'être toujours au plus près de celui-ci, afin de l'observer dans le détail, et d'observer le moindre de ses faits et gestes, ses comportements, ses actions et ses pensées. Comme vous pouvez le voir, au final, un test utilisateur à l'étranger n'est pas si différent d'un test en présentiel. Il n'est pas si compliqué et surtout cela vous permettra d'en retirer une très grande richesse pour optimiser votre site web.